France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et Claude, une fois n'est pas coutume, on commence avec des gens qui planent.
Et qui prennent des substances pour être créatifs. Car tous les matins, Monsieur McCloud, entrepreneur de la Silicon Valley, Californie, prend sa première dose de LSD après son premier thé vert. Puis il médite un peu et sous la douche déjà, les idées apparaissent. Le magazine des Échos me raconte donc les hallucinogènes au pays des startups. Et quelle joyeuse bizarrerie de voir ce magazine faire exactement le même trajet, le même trip, qu'il y a 50 ans, un jeune journaliste en rupture de l'Express nommé Jean-François Bizot, qui en Californie appréhendait liberté politique et sexuelle et la contre-culture et le LSD. Bizot en inventerait un journal mythique actuel, maintenant les Échos et la Silicon Valley, l'eût-on cru. Mais ceci est logique car je le lis, la Californie n'a jamais changé. Les premiers ordinateurs personnels étaient contemporains des hippies, autre émancipation. L'iPhone fut créé grâce au LSD qui permit à Steve Jobs de comprendre que la création valait mieux que l'argent. D'ailleurs, Jobs disait que Bill Gates, le patron de Microsoft, le concurrent, aurait été plus créatif s'il avait tenté de l'acide juste une fois ou deux. Poésie donc, mais nostalgie, car le délire aujourd'hui, je le lis, est de l'économie. Le LSD, efficacité ne se prend que par micro-dose. Le New York Magazine a même publié les meilleures recettes. Et plus triste encore, me disent les Échos, les start-upers en réalité se drogueraient parce qu'ils sont malheureux. Dans Uzbek Erika sur Internet, je lis le malheur de ces employés de la vallée du Silicone, décrit par un journaliste américain, Dan Lyons, comme des lab rats, littéralement des rats de laboratoire. Et l'homme décrit comment les sociétés de la nouvelle économie traitent leurs employés pressurés et précarisés. Mais non, vous n'êtes pas virés, vous êtes diplômés. C'est la fin de votre cursus, au revoir. Et le LSD masque donc la moralité. Le Monde me révèle que des chercheurs viennent de demander à Amazon de ne plus vendre son logiciel de reconnaissance faciale à la police. De fait, le procédé n'est pas très hippie. Ils ont l'air plus joyeux, même si un peu speedés, nos jeunes gens français que l'Union et l'Ardennais me présentent, qui concourent dans une drôle d'invention de chez nous. Ma thèse en 180 secondes, où il faut réduire devant un public à 3 minutes des années de recherche. Je cherche à vous manipuler pour optimiser le message de prévention contre le réchauffement climatique, a lancé Manu, qui met la psychologie au service de l'environnement. Henri, lui, est venu avec des photos de Pablo Escobar, la drogue de Ben Laden, le terrorisme, et du patron de la BNP aussi, car les activités illicites de ces personnes, dit-il, coûteraient 1000 milliards par an aux États européens. Il travaille, ce jeune homme, sur un droit européen de la conformité. Brillants et rapides jeunes Français qui sont du beau côté de notre avenir, quand d'autres découvrent l'esclavage du temps présent. Le républicain lorrain et le dauphiné notamment me posent cette question. Accepteriez-vous de cliquer sur 300 photos afin de dire s'il figure ou non un chat, par exemple, en étant payé un centime la pièce? Si oui, vous êtes prêt pour la nouvelle économie du clic. Et c'est un dossier sur le micro-travail. Cela concerne des millions de personnes dans le monde, auxquelles les Uber, Google ou Amazon demandent de réaliser des micro-tâches répétitives pour classer des données. Des êtres humains sont les soutiens des machines. Ils sont payés à la pièce. Il y en a 300 000 en France. Le pendant gaulois des lab rats, nul ne s'en soucie, sauf des journaux. Nous sommes là pour ça.
On cherche les chemins de la prospérité en France, par ailleurs, Claude.
Et même, on cherche un génie français, les Échos. Le journal donne le palmarès des champions français de l'innovation. C'est Valeo qui pose le plus de brevets dans ce pays. Un équipementier automobile, valeur sûre, il en faut. La une de l'usine nouvelle nous montre cette vieille camionnette jaune, deux chevaux Citroën qui peuplent nos paysages, car nous sommes les champions de l'utilitaire. L'Opinion nous conseille, c'est son métier, de devenir des libéraux et de jouer la concurrence. D'ailleurs, le monopole des pharmaciens sur les médicaments sans ordonnance sera bientôt entamé. Et l'État, me dit Le Monde, veut se renouveler. Et le président de la République veut cassé par du sang neuf, la caste des fonctionnaires. Il pourrait faire appliquer à l'ENA d'abord, puis à Polytechnique ou Normale Sup, la vieille recette choisie pour renouveler Sciences Po, créer un concours spécifique pour des jeunes gens des quartiers populaires. Il voudrait aussi empêcher Emmanuel Macron, les jeunes diplômés de l'ENA, d'intégrer aussitôt un grand corps prestigieux qui se mériterait au travail. Chacun a sa recette pour sauver la France. On peut aimer celle du Parisien qui vante la bienveillance, c'est-à-dire l'attention aux autres dans les entreprises. Le journal est doux ce matin. Il raconte aussi des ultras du Paris Saint-Germain qui nourrissent les SDF dans des maraudes. Mais cette journal est aussi celle d'un journal blessé. Une jeune femme sourit dans les pages du Parisien. Elle s'appelait Stéphanie Ogui. Elle animait ces pages locales qui sont la force et la vérité d'un journal où elle était entrée à 20 ans. 20 ans après, elle est morte. Elle qui disait à ses journalistes qu'elle aimait d'aller voir les gens, nous servons à cela. Fatalité, à Marseille, hier, un homme a été condamné à de la prison pour en avoir éborgné un autre dans une bagarre alcoolisée, me dit la Provence. Vous lirez, allez-y, sur le site de l'équipe, toute l'histoire de Mehdi Sanoun, qui fut champion du monde de boxe et si beau quand il dominait les rings en short de légionnaire romain à franges cousues par sa maman. Mais la boxe dévore les âmes, ensuite il use l'alcool, on connaît tellement ses déchéances.
Et on parle également du Rwanda, Claude.
À la veille de la commémoration du génocide, on est saisi par un reportage de La Croix où deux hommes bavardent sur cette étrange photo. L'un fit partie des assassins du père de l'autre. Il se retrouve désormais à l'abri de l'église. Est-ce absurde ou est-ce une espérance? En Égypte, je le lis dans le New York Times, le pouvoir du général Sissi veut contrôler les feuilletons télévisés. Ces histoires d'amour qui sont la respiration du peuple pendant le ramadan. Ce sont des histoires bizarres d'un monde étouffant et par moments un miracle. Je rencontre sur le site de l'Obs, rue 89, une jeune Anglaise de 19 ans devenue riche grâce à un site internet, évidemment, ouvert quand elle avait 15 ans, où elle conseille des prénoms européens aux parents chinois. C'est la mode là-bas, dans l'espace de liberté futile que l'État autorise. Elle aurait baptisé 684 501 bébés et elle-même s'appelle Beau, un prénom de garçon tout droit sorti du vieux sud des États-Unis. Parfois la presse me fait rêver à autant. On emporte le vent.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.